Vous écoutez, on lit pour vous.
Derrière les portes des casernes, violence domestique dans la garnison britannique de Québec. Un texte de Séverine Anger, paru dans la revue Cap au Diamant, hiver 2024, numéro 156. Québec, vendredi 27 février 1767. À la maison de Laclin Smith, aubergiste de Québec, le coroner William Tichborne fait enquête sur la mort de Anna McCook, trouvée gisant morte dans les casernes de l'intendant. George Norton, un soldat du 52e régiment, est reconnu coupable de l'avoir tué d'un coup de bâton à la tête. Ce meurtre n'a peut-être pas marqué l'imaginaire populaire, comme ont pu le faire la Corriveau ou encore la bande à Chambers. Mais ce crime oublié mérite d'être sorti de l'ombre pour ce qu'il révèle sur la vie militaire à Québec pendant le régime britannique. Il rend visible non seulement la présence encore fortement négligée de femmes dans la garnison, mais également la violence pouvant se dérouler derrière les portes des casernes. L'armée, par sa raison d'être, entretient une relation intrinsèque avec la violence par les guerres auxquelles elle prend part. Dans une ville de garnison comme Québec, où les populations civiles et militaires entretiennent des rapports étroits, des altercations surviennent fréquemment entre soldats et civils, l'armée jouant également un rôle de maintien de l'ordre avant la mise en place d'une force policière. Ostola 2007. Toutefois, le meurtre de Anna McCook transporte la violence à l'intérieur des casernes, dans cet espace non seulement militaire, mais également domestique, où femmes et enfants vivent avec les soldats. De ce fait, il suscite de nombreuses interrogations sur le quotidien dans ces lieux, particulièrement sur celui des femmes qui y vivent au cours des premières décennies du régime britannique. Des scènes de violence, comme celles subies par Anna McCook, étaient-elles fréquentes? Dans quel environnement les femmes exerçaient-elles leur rôle d'épouse et de mère? Quelle était leur place au sein de l'institution militaire? Officiellement, l'armée britannique n'autorise la présence que de 6 femmes par compagnie de 100 hommes, un trop grand nombre de femmes étant perçu comme une menace à la discipline dans les rangs. En pratique, cette réglementation n'est que peu respectée. À l'exception de l'invasion américaine, de la guerre de 1812 et des rébellions des Patriotes, Québec vit dans un climat de paix durant le régime britannique, ce qui rend les autorités militaires plus souples quant au nombre de femmes autorisées à accompagner l'armée. Ainsi, en octobre 1799, lorsque le 41e régiment arrive à Québec avec un total de 547 hommes, 73 femmes l'accompagnent, soit environ 40 femmes de plus que ce que permet officiellement la réglementation. La présence de femmes est un fait reconnu dans l'historiographie de la garnison britannique de Québec, mais leur présence ne bénéficie que de simples mentions, tout comme leur rôle de blanchisseuse et de cantinière. Angers 2021, page 8. Appartenant aux classes populaires, encore peu lettrées à l'époque, ce ne sont souvent que des documents officiels qui renseignent sur les faits et gestes de ces femmes. Les archives judiciaires permettent donc une rare incursion dans leur quotidien et ouvrent ainsi une fenêtre sur les rapports matrimoniaux dans l'environnement contrôlé de l'institution militaire. La violence domestique est une réalité qui n'épargne les femmes d'aucune classe sociale. Femmes d'artisans, de marchands, de cultivateurs, de marins ou de magistrats, toutes peuvent la subir, souvent en silence. Hurlemann, 2005, page 9. Les cas rapportés de violences perpétrées envers les femmes de soldats de la garnison de Québec témoignent non seulement de la présence intégrante des femmes dans le quotidien de la garnison, mais également de leur vulnérabilité au sein de l'institution militaire dans laquelle, au tournant du 19e siècle, elles ne sont encore que tolérées. Espace domestique sous contrôle militaire. Durant leur séjour dans la garnison de Québec, certains soldats logent avec leurs femmes et leurs enfants dans des maisons louées en ville qui sont généralement partagées avec d'autres familles. La Selle, 1976, page 14. Toutefois, la grande majorité des soldats habitent dans les casernes réparties dans la ville, principalement celles des Jésuites et les nouvelles casernes dans le parc de l'artillerie. C'est donc dans cet environnement unique à la garnison que se déroule la vie matrimoniale de la majorité des épouses de soldats. L'historien John William Fortescue qualifie d'innommables les conditions de vie dans les casernes à l'époque. Fortescue, 1923, pages 10 et 11. Les couples avec leurs enfants cohabitent dans des pièces surpeuplées avec les soldats célibataires. Les pièces servent à la fois de dortoir, de cuisine et d'espace social. C'est dans cet espace que les femmes exécutent les tâches essentielles au bon fonctionnement de la vie dans les casernes, comme la lessive, la cuisine et les travaux de couture. Ainsi, les épouses de l'armée font dans le régiment ce qu'elles feraient dans leur propre maison, les casernes devenant l'espace domestique dans lequel elles exercent leur rôle d'épouse et de mère. Contrairement aux épouses d'officiers qui bénéficient d'un espace domestique bien défini, les femmes de soldats vivant dans les casernes, tout comme celles logeant dans des maisons partagées, n'ont pas ce luxe. Leur vie conjugale privée se déroule sous le regard des autres soldats, ayant tout au plus un rideau pour l'intimité. Dans son étude portant sur les femmes de soldats à Fort Wellington, dans le Haut-Canada, Catherine McKenna exprime la détresse émotionnelle des jeunes épouses de soldats qui doivent vivre dans une telle proximité avec des douzaines d'autres soldats. Une situation qui, sans doute, s'applique également aux casernes de Québec. McKenna, 2016, page 494. Les casernes à l'époque n'étaient aucunement conçues pour accueillir des familles, ce qui témoigne du fait que l'armée tolère épouses et enfants, mais ne cherche pas à encourager leur présence en trop grand nombre. On considère bénéfique au régiment la présence d'un petit nombre d'épouses pour effectuer des tâches domestiques, alors qu'un trop grand nombre est perçu comme une nuisance. Dans des lettres à leurs supérieurs, certains officiers rapportent que le comportement des femmes pouvait être pire que celui des hommes, notamment en matière de consommation d'alcool et de vol. Brett James, 1994, page 281. Les épouses de soldats ont également la réputation d'avoir un comportement sexuel considéré immoral. Par ailleurs, elles peuvent provoquer de l'animosité dans les rangs, les hommes se disputant leur affection. Les femmes peuvent également avoir des altercations violentes entre elles. En septembre 1819, Anne Nicaire, l'épouse d'un bombardier alors en garnison à Québec, porte plainte contre la femme d'un soldat de l'artillerie qui l'aurait menacée avec un couteau. Le comportement potentiellement perturbateur des femmes de soldats, qui peut être exacerbé par la promiscuité dans laquelle elles vivent, contribue à la constante remise en question de leur présence au sein du corps militaire. La discipline au féminin. Les épouses de soldats se démarquent de leur homologue civil en étant soumises à la discipline de l'armée britannique. Afin de s'assurer qu'elles ne nuisent pas au régiment, l'armée cherche à exercer un contrôle sur leur comportement, particulièrement en menaçant de couper leurs rations ou de les expulser des casernes sans moyen de subsistance. Bien qu'il semble qu'il ne soit pas commun pour les femmes de recevoir des châtiments corporels, cela n'est pas impossible. Deux femmes sont ainsi fouettées dans les rues de Québec en novembre 1759 pour avoir vendu de l'alcool à l'encontre des ordres. Knox, 1916, page 218. Vivant constamment sous la menace de la discipline militaire, reconnue pour être plus sévère et expéditive que celle de la société civile, les épouses de la garnison vivent dans un environnement perverti par la violence. Dans ses mémoires, Philippe Aubert de Gaspé note qu'à la fin du XVIIIe siècle, il se passait peu de vendredis que ceux qui fréquentaient le marché de la haute ville de Québec ne fussent attristés des cris de douleur sortant de la cour des casernes. De Gaspé, 1866, page 32. Sous les coups des baïonnettes. Les contemporains et les historiens présentent souvent les unions de soldats comme l'archétype de la conjugalité dysfonctionnelle des classes populaires. Les soldats ont la réputation d'être indignes de confiance, ivrognes, coureurs de jupons et violents. Bien que dans les coupes militaires, tout comme dans les couples civils, il existe un spectre de comportements allant du témoignage d'amour et d'affection à la violence meurtrière, la réputation des soldats n'est pas sans fondement. L'ivresse est particulièrement problématique et est souvent en cause dans les crimes violents. Dans son étude des mariages de soldats basée sur la procédure de l'Old Bailey, le tribunal pénal anglais, Janine Hurl Himon, dévoile plusieurs cas de soldats attaquant leurs femmes et souligne l'atmosphère violente des casernes militaires en Angleterre. Les casernes de Québec n'échappent assurément pas à cette atmosphère. Il est difficile de déterminer la fréquence des actes de violence dans la garnison et s'ils sont plus fréquents que dans la population civile, puisque nous ne connaissons que les cas dans lesquels les autorités judiciaires ont été impliquées. Cependant, ces derniers ne représentent qu'une fraction des cas de violence domestique. De fait, seuls les cas de violence considérés excessifs ou inhabituels mènent à des appels aux autorités. Hunt, 1992, page 13. Incluant le cas d'Anna McCook, il fut possible d'identifier clairement 5 meurtres sur une période couvrant les 5 décennies suivant la conquête, dont la victime est identifiée comme une femme appartenant à la garnison. Le soir du 21 février 1800, Joanna Carson, une veuve du 24e régiment, est battue à mort par un soldat venu la visiter alors qu'il est en état d'ivresse. Le 6 juin 1813, Mary Holmes est poignardée à coups de baïonnette par son mari, John Holmes, soldat du 89e régiment. 2 soldats du régiment, présents lors de la scène, témoignent contre lui. Le chirurgien militaire, Richard Armstrong, raconte quant à lui avoir été appelé à se rendre dans une maison de la rue Sainte-Ursule au chevet de Rachel Craig. Le corps de cette dernière présente plusieurs marques de violence, dont une fracture du crâne. Sarah, la fille de 9 ans de la défunte, témoigne que son père, soldat dans le régiment des Newfoundland Fencibles, avait frappé sa mère à la tête, aux mains et aux bras le jour du 2 septembre 1808. Les témoins rapportent que l'homme maltraitait depuis longtemps sa femme et qu'il était souvent intoxiqué par l'alcool. L'acte de décès de Rachel Craig nous apprend qu'une fille du couple, âgée de 8 mois, fut également victime des coups de son père. En mai 1795, Bridget Kavanagh est tuée par son mari Charles Kavanagh, soldat du King's Own Regiment, dans la casemate où ils vivent, près de la porte Saint-Louis. Un autre soldat du régiment nommé Patrick Hamilton viendra témoigner contre son collègue, tout comme Catherine, épouse du soldat Barnaby McGuinness. Ils affirment que Charles Kavanagh revenait de ses exercices lorsque son épouse lui a tenu un langage très grossier durant de longues minutes. Il lui a crié d'arrêter, et comme elle continuait de plus belle, il l'a poignardée avec sa baïonnette. Les deux témoins racontent qu'ils étaient assis à une table durant l'altercation, sans interrompre leurs occupations, et n'ont levé les yeux que lorsqu'ils virent Bridget Kavanagh tomber au sol. Ainsi, bien que les cas de violence se soldant par une issue fatale ne semblent pas être monnaie courante, l'attitude des témoins suggère que ce n'était pas la première fois que le couple se disputait et que de telles scènes domestiques étaient fréquentes dans les casernes. Dans l'univers foncièrement masculin de l'armée britannique, les épouses de soldats doivent constamment renégocier leur place, se montrer utiles et avoir une bonne conduite sous le spectre de la discipline militaire et dans un environnement de promiscuité et d'ivrognerie. par les cas présentés, il apparaît que la violence faisait partie du quotidien des femmes de soldats en garnison à Québec parce qu'elles en étaient victimes, témoins ou même participantes. Les cas où les femmes ont brisé le silence montrent aussi l'agentivité dont elles pouvaient faire preuve en dénonçant ou témoignant contre cette violence. Cette dimension de la vie militaire, encore négligée, met en lumière les difficultés d'être une femme de la garnison et sa vulnérabilité dans un environnement qui lui est souvent hostile, certaines le payant de leur vie. Un prix que des femmes paient malheureusement encore aujourd'hui, 250 ans plus tard. Séverine Anger, baccalauréat en histoire, Université Laval, 2016-2019, maîtrise en histoire, Queen's University, 2019-2021, bourse du CRSH, doctorat en histoire, University of York, 2021, bourse de la Walsall Foundation. C'était « Derrière les portes des casernes, violences domestiques dans la garnison britannique de Québec », un texte de Séverine Anger, paru dans la revue Cap au Diamant, hiver 2024, numéro 156.
Le réveil d'un bébé qui a dormi pendant 2000 ans, un texte de Boucar Diouf, paru le 27 avril 2024 dans la presse. Voir la nature retrouver son manteau vert et ses couleurs de pétales est un spectacle parmi les plus beaux du monde. Après la dormance, les semences des plantes se préparent à sortir de terre et à participer au grand éclat estival qui nous apaise et nous soigne. Pour reprendre la formule du biologiste américain Thor Hansen, chaque graine est un bébé qui dort avec son lunch. En effet, il suffit de le réveiller et de le mettre dans les bonnes conditions pour voir émerger une plantule. Championne de la résilience, certaines semences sont capables de roupiller pendant très longtemps avant de se réveiller. Ainsi, on a déjà réussi à faire germer des graines de lupin arctique âgées d'au moins 10 000 ans, trouvées dans des terriers de Lemming au Yukon. Des semences gelées qui ont entamé leur long sommeil hivernal au Néolithique, alors que nos ancêtres lointains commençaient juste à se sédentariser. Cependant, l'exemple que je veux vous faire partager dans ce texte est celui des graines de dattier trouvées pendant les fouilles de la forteresse de Masada. Avant d'entrer au cœur de mon sujet, un petit résumé historique s'impose. La forteresse naturelle de Masada, devenue un important site touristique israélien, est perchée en haut d'une impressionnante falaise du désert de Judée. La citadelle aurait été fortifiée vers l'an 35 avant Jésus-Christ par le roi Hérode le Grand. Après, Masada tombera entre les mains de rebelles juifs appelés les Sicaires. Ces redoutables guerriers, qui n'avaient pas la réputation d'être tendres avec leurs ennemis, contesteront ouvertement la domination romaine. Pour mater la révolte, l'Empire romain enverra alors une colonne de légionnaires dirigée par le général Lucius Flavius Silva. Lorsque ce dernier arrive au pied de la falaise en 72 de notre ère, il réalise rapidement que le seul et sinueux chemin qui pouvait mener à la cité, le sentier du serpent, était gardé par les redoutables et combatifs Sicaires. Pour ne pas risquer inutilement la vie de ses soldats, Flavius Silva opta pour un siège prolongé de la forteresse. Les troupes romaines mettront alors des mois à construire une gigantesque rampe qui permit à l'expédition d'escalader le rocher et de prendre possession de la place. Du moins, de ce qui en restait, car l'historien Titus Flavius Joseph raconte qu'avant que les Romains n'entrent dans la cité, ses habitants avaient choisi le suicide à la reddition. La légende raconte que 960 personnes y avaient trépassé de cette façon qu'ils jugeaient plus honorable. Cette histoire, qui inclut une forte dose de légende, a pris une grande importance symbolique dans la culture juive. Elle est même devenue un mythe fondateur israélien. Le site, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, attire chaque année des centaines de milliers de visiteurs. Je vais cependant laisser aux historiens les détails de cette saga et arriver au sujet qui intéresse bien plus le biologiste que je suis. Après la prise de la cité par l'expédition romaine, la forteresse sera habitée par des moines chrétiens qui, à leur tour, la quitteront vers le VIe siècle de notre ère. Masada tombera alors en ruine et dans l'oubli jusqu'à sa découverte en 1828. Puis, des fouilles y commenceront en 1963. Les archéologues y trouveront de nombreux artefacts, mais aussi des graines du palmier dattier de Judée qui a disparu de la planète depuis très longtemps. Ce dattier, qui produisait de gros et délicieux fruits, était cultivé sur le bord du Jourdain, de la mer Morte et du lac de Tibériade. En 2005, deux chercheuses, Sarah Salon et Helen Soloway, entreprennent la folle idée de faire germer ces graines. Elles réussissent à faire pousser un de ces noyaux dont l'âge, estimé par les datations au carbone 14, se situait entre 1800 et 2200 ans. Un coup d'éclat qui sera relayé par la presse scientifique à la grandeur de la planète. En hommage au personnage le plus vieux mentionné dans l'Ancien Testament et qui aurait vécu 969 années, la plantule sera baptisée Mathusalem. Malheureusement, ceux qui espéraient goûter un jour à la date de Judée devaient encore s'armer de patience. En cause, la plantule sortie de terre était un mâle. Il fallait lui trouver une partenaire, un pied femelle, pour espérer un jour avoir une fécondation et une production ultérieure de fruits. Heureusement, en 2020, d'autres jeunes palmiers, dont des femelles, ont émergé de ces vieilles semences. Donc, si la tendance se maintient, dans quelques années, ces arbres commenceront à livrer des fruits à l'humanité. On espère qu'ils produiront ces variétés de dattes disparues ou au moins des hybrides portant des caractères phénotypiques du fameux dattier de Judée. Ces dattes sont mentionnées dans la Bible et ont fait saliver Pline l'Ancien, mais aussi Théophraste, qui est considéré comme le père de la botanique moderne. Dans la nomenclature scientifique, le palmier dattier est appelé Phoenix dactylifera. Or, le phénix est un oiseau mythologique qui renaît de ses cendres. On peut donc dire que le dattier de Judée est un phénix qui est sorti des cendres de la forteresse de Masada. Comme dirait le grand Charles Tisser, fascinantes sont les plantes. Le réveil d'un bébé qui a dormi pendant 2000 ans, un texte de Boukhar Diouf, paru le 27 avril 2024 dans la presse.
Offensive du SPVM et du DPCP contre la domination par étranglement. Un texte de Stéphanie Marin, paru le 7 mai 2024 dans Le Devoir. Se basant sur des études démontrant que lorsqu'un conjoint tente d'étrangler sa conjointe, le risque qu'il la tue par la suite augmente de façon significative. La police montréalaise et le directeur des poursuites criminelles et pénales, DPCP, lancent un projet pilote en matière de violence conjugale. L'initiative, une première au Québec, vise la formation des policiers et des procureurs de la Couronne et comprend un volet d'aide aux victimes qui ne reconnaissent pas toujours les symptômes physiques qui sont la conséquence d'une telle agression. Le projet pilote sera d'abord déployé dans l'est de l'île de Montréal sur une période de 18 mois. Des formations seront offertes aux policiers des postes de quartier et à ceux des unités aux enquêtes criminelles, de même qu'aux procureurs du DPCP. La déclaration de la victime, rédigée lorsqu'elle porte plainte aux policiers, sera modifiée avec l'ajout d'une partie incluant des questions visant spécifiquement ce geste grave qu'est l'étranglement. De l'information relative aux différents symptômes qui peuvent survenir durant les heures et les jours suivant un étranglement sera aussi remise aux victimes afin de les sensibiliser aux conséquences et aux dangers pour leur santé. Car dans bien des cas, les victimes ne se rendent pas compte qu'elles ont été étranglées, notamment parce que l'étranglement ne laisse souvent pas de marques ou encore parce qu'elles ont perdu connaissance. Les symptômes de l'étranglement peuvent inclure, en plus de la perte de conscience, des maux de gorge, une perte de la vue ou de l'ouïe et des maux de tête. L'étranglement est une preuve de domination complète de la part de la personne qui agresse, qui démontre à la victime qu'elle tient littéralement sa vie entre ses mains, signale la commandante Anouk Saint-Onge, chef de la section spécialisée en violence conjugale du service de police de la ville de Montréal, SPVM. Le projet pilote constitue une solution multidisciplinaire qui cherchera à bonifier les interventions de nos équipes lorsque nous recevons de tels signalements. Du côté des procureurs de la Couronne, ce projet pilote devrait amener une meilleure collecte de l'ensemble des éléments de preuve nécessaires pour pouvoir porter des chefs d'accusation contre les auteurs de violences, estime Mme Maya Ducasse-Atti. Il devrait permettre aussi de mieux accompagner les victimes au sein du processus judiciaire, ajoute la procureure spécialisée en violence conjugale. À l'issue de la période d'implantation, une évaluation du projet pilote sera effectuée afin de déterminer si le projet pourra être maintenu, puis éventuellement étendu à l'ensemble de l'île de Montréal. C'était Offensive du SPVM et du DPCP contre la domination par étranglement. Un texte de Stéphanie Marin, paru le 7 mai 2024 dans Le Devoir.